enseignemoi.com.
Enseignemoi.com, le site numéro 1 d'enseignement chrétien.
Le site numéro 1 d'enseignement chrétien.
Enseignemoi.com.
Parce que son peuple périt, faute de connaissances.
Enseignemoi.
Toute la parole de Dieu, sans compromis.
Toute la parole de Dieu, sans compromis.
Réveiller les héros du Seigneur. Deuxième partie, la semaine passée, on a vu « Affrontons nos géants ». Combien s'il y en a qui ont tué quelques géants cette semaine, là? Ce matin, c'est un petit peu différent. Ça va être petit geste, gros impact. Peut-être que là, on va rejoindre d'autres personnes ce matin. Joël chapitre 3, verset 9 à 11. Préparez la guerre, réveillez les héros, qu'ils s'approchent, qu'ils montent, tous les hommes et les femmes de guerre, tous les guerriers et guerrières, que même les plus peureux, comment s'il y en a qui sont peureux ce matin, se convainquent qu'ils sont des héros, alléluia, qui sont peureux ce matin, soyez pas gênés, je fais partie des peureux, mais je suis un héros ce matin en Jésus-Christ, je suis un héros du Seigneur ce matin. Oui, j'ai des peurs, oui, j'ai des craintes, mais je suis un héros du Seigneur parce que c'est lui qui me donne la victoire. Hâtez-vous, venez, rassemblons-nous. Là où éternel, fais descendre tes héros. Seigneur, ce matin, bénis cette parole de Dieu-là encore. Que ma bouche soit remplie de paroles de vie ce matin, Seigneur, qui vont communiquer la vie à ceux qui vont l'entendre, Seigneur. Que mes paroles soient remplies, ma bouche soit remplie de paroles de victoire ce matin, Seigneur. Parce que Dieu, c'est ça qu'on est, des plus que vainqueurs en Jésus-Christ, Seigneur. Bénis cette parole de Dieu ce matin, au nom de Jésus. Amen. La semaine passée, je vous ai fait part de mes super-héros. Tu sais, c'était les grands héros, là, les Batman, les Spider-Man. Puis c'était mes super-héros. Ce matin, je vais vous en montrer d'autres. Mais c'est mes petits-héros. C'est pas des super-big héros, mais c'est des petits-héros. Des petits-héros qui, à chaque fois que j'écoutais leur émission, quand j'étais petit, il y a toujours du monde qui voulait les piéger pour leur faire mal. Il y avait toujours des pièces qu'ils mettaient sur leur chemin. Mais mes petits héros les détournaient tout le temps. Puis c'est finalement ceux qui mettaient les pièges qui se faisaient piéger à leur propre piège. Puis là, ceux qui ont déjà écouté la TV quand ils étaient petits peuvent s'imaginer de quel genre de petits héros que je vais parler. Est-ce qu'il y en a qui peuvent en deviner? Les Kalinours. Les Kalinours. Écoute, il faut que je n'ai pas trop écouté ça parce que ça ne m'a pas parti de ma liste. Je vais commencer avec mon premier. Combien ça rappelle? De Speedy Gonzalez. Et des fois, je dis à mes jeunes, ah ouais, Speedy Gonz, là, tu sais, en voulant dire, dépêche-toi, il faut que ça y aille plus vite que ça. Puis c'est quoi ça veut dire, ce Speedy Gonz, père, là, tu sais? Ça veut dire que c'est une petite souris qui allait bien vite. Puis c'était toujours Pussycat, hein? Pussycat, il avait de la misère avec Speedy, puis il avait de la misère avec Tweety de Burn. Hein? Il essayait toujours de prendre au piège Speedy Gonzalez, puis allait trop vite, trop vite. Mon deuxième. Mais Speedy Gonzalez, j'aimais ça parce que elle gagnait toujours à la fin. Il y a toujours des pièges sur son chemin, mais elle se laissait jamais piéger. Elle finissait toujours par gagner. Puis c'est pour ça que je les aimais, ces bonhommes-là. Parce que c'était toujours des gagnants. Moi, j'écoutais rien que des gagnants. J'écoutais pas les perdants. Ben, écoute, c'est ça. Vous autres aussi, vous n'avez pas écouté des perdants. Vous avez écouté des bonhommes parce que c'était des winners. J'espère qu'il n'y a personne qui prenait pour le pingouin, là. Ou le Joker. Roadrunner est plus fort que le coyote. Roadrunner. Bibi! J'attendais que quelqu'un fasse. Moi, j'aime assez écouter Roadrunner, mais Mike, j'avais de la compassion pour le coyote. Il était vraiment miono et niaiseux. Mais écoute, si on peut être des Roadrunners dans le Seigneur, c'est notre ennemi qui va avoir l'air niaiseux et qui va avoir l'air nono. Si on spiritualise, c'est sûr que ça fait drôle de spiritualiser Roadrunner, mais à quelque part, il y a un principe derrière tous ces bonhommes-là qui est quand même enseigné. C'est que si tu fais attention puis t'évites les pièges, tu vas gagner. Mais si tu te fais prendre aux pièges, tu vas te faire mal. Puis mon dernier, Tom et Jerry. Alors regarde-le, il veut-tu le poignet, hein? Il veut-tu le poignet? Puis regarde, là, puis l'autre, sourire fendu jusqu'aux oreilles. Essaye donc de me pogner. Tu m'auras pas. On peut-tu être comme ça avec le diable? On peut-tu avoir la joie du Seigneur puis regarder en pleine face et dire, tu penses-tu que tu vas m'avoir? T'es proche à m'avoir, mais tu m'auras pas. Plus fort que toi. Les petits héros que j'aimais. Parce que à chaque piège qu'on leur dressait devant eux autres, ils passaient toujours à côté, ils se faisaient jamais piéger. Puis combien s'il y en a parmi nous? On a plein de pièges qui nous sont tendus à chaque jour par le péché, par le mal. Qu'on soit des Speedy Gonzalez pour Jésus, des Roadrunner, des Jerry pour Jésus. Ben, je pense que c'était Jerry, hein, sûr. Petit, mais toujours les gagnants. On peut se voir petit, on peut voir notre ennemi grand. Mais quand Dieu se met de la partie, nous sommes beaucoup plus gros, nous sommes beaucoup plus forts que notre ennemi. Ce matin, je veux parler, c'est rare, je parle d'une femme. Hey, c'est vrai, j'ai des feuilles à vous donner pour notre femme. C'est vrai, hein? La misère avec ça, cette botte-là. C'est deux personnes, charmantes personnes, qui peuvent juste venir distribuer ça. Alex. Je savais que Robert, c'est vrai. Mais qu'est-ce que tu veux? Robert, c'est une charmante personne quand même. Là, et pendant qu'on distribue les feuilles de notes, ce matin, je veux parler d'une jeune femme, d'une jeune fille même. Et d'habitude, quand on parle des héros, on dirait que c'est toujours les gars qu'on parle. Ce matin, je veux parler d'une jeune fille, puis même le premier point, je l'ai intitulé « Une inconnue ». Une inconnue. Cette jeune fille-là, ce matin, a fait un petit geste, mais dont l'impact fut énorme et incroyable. Un geste tellement petit que je me souviens même pas d'avoir entendu parler d'un prédicateur qui a prêché sur cette jeune fille-là qu'on va parler, cette inconnue-là ce matin. J'ai entendu l'histoire qu'on va regarder, je l'ai entendue de plusieurs prédicateurs. Mais je me souviens pas avoir entendu un prédicateur mettre l'emphase sur qu'est-ce que la jeune fille a fait. Puis moi ce matin, je vais m'entendre pour la première fois le dire. Je vais parler d'une inconnue, mais d'une héroïne ce matin. Et ce matin, que les héros de Dieu, du Seigneur se lèvent et se réveillent ce matin, car un petit geste peut faire une grosse différence dans la vie des gens qui nous entourent. La plupart des héros sont des grands personnages, de nos héros bibliques, les Moïse, les Abraham, les David, les Joseph, qui par leur foi ont bouleversé le monde autour d'eux autres. Mais ce matin, je veux parler d'une jeune petite fille, tellement inconnue, qu'on n'a même pas mentionné son nom dans la Bible. On l'a juste baptisé la servante de la femme de Naaman. Tournez avec moi dans 2 Rois, chapitre 5, versets 1 à 3. Et on va regarder une histoire de cette jeune fille-là. Inconnu. Le chef de l'armée du roi s'appelle Naaman. C'est quelqu'un d'important pour son maître, le roi, qui est très bon pour lui. En effet, c'est par lui, par Naaman, que le Seigneur a donné la victoire aux Syriens. Mais ce combattant courageux a un problème. Il est lépreux. Or, les armées des Syriens qui sont entrées en Israël ont fait prisonnière une petite fille. Celle-ci est devenue la servante de la femme de Naaman. Un jour, la petite fille a dit à sa maîtresse, parce qu'elle était esclave, donc Naaman c'était son maître, sa femme de sa maîtresse, elle a dit à sa maîtresse, « Si mon maître pouvait aller voir le prophète du nom d'Élisée, qui est à Samarie, il le guérirait de sa lèpre. » Cette petite fille-là était une esclave, elle a été faite prisonnière, on est allé la chercher là où elle vivait en Israël, elle était juive, On l'a kidnappé, finalement, c'est un kidnappage, là, c'est les termes, là, dans le journal de Montréal, ça aurait été écrit une jeune fille kidnappée. T'sais. Et on l'a emmenée prisonnière à Syrie. Puis là, on l'a vendue, puis c'est Naaman qui l'a achetée. Mais Naaman, c'est un homme extrêmement important pour le roi, que l'avait dit. C'était quelqu'un de haut placé, c'était un combattant courageux, exemplaire. Le Seigneur, demandez-moi pas pourquoi, mais il s'en l'air qu'il faisait gagner des victoires. Puis c'était un peuple ennemi, c'est bizarre. Hein? Quand il avait des leçons enseignées à son peuple, je sais pas. Mais Naaman avait un problème, il était lépreux. Voyant que son maître combattait avec la lèpre, cette jeune fille-là voulait l'aider, mais elle se sentait impuissante devant la maladie. Mais tout d'un coup, elle a eu une idée. Là, elle se posait des questions. Il va-tu considérer ma proposition? Couche, petite fille, je suis son esclave. Moi, m'en va lui dire quoi faire. Lui, c'est comme un des big boss, c'est le chef de l'armée. Là. C'est pas le roi, mais c'est quasiment le roi. Bon, je pense qu'il ne m'écoutera pas. Hein. On va aller voir sa femme. Lui, il va au moins écouter sa femme. Mais s'il ne m'écoute pas moins, il risque d'écouter sa femme. Ben, je vais aller voir sa femme. Mais avez-vous compris le message, les enfants? Allez voir vos mères. Je ne sais pas si c'est ça que ça veut dire. Elle est allée voir la femme de Naaman parce que peut-être qu'elle était plus à l'aise avec elle. Puis elle lui a fait la proposition. Hésitante, mais elle en parle à la femme de Naaman, puis elle dit, « Si mon maître, elle n'a même pas dit si ton mari, elle dit, si mon maître pourrait juste aller voir Élisée, c'est un grand homme de Dieu, c'est un prophète de Dieu, je suis pas mal sûr qu'il va le guérir. Oh, je suis pas mal sûr qu'il va le guérir. Mais il faudrait qu'il aille chez les Juifs. Il n'était pas un Juif, là, il aurait fallu qu'il aille là. Cette jeune fille-là a fait un petit geste. Simple suggestion. Petite suggestion. Mais moi, ce matin, je vais vous dire que ce petit geste-là, il est remarquable pour trois choses. Premièrement, elle a agi même si elle était petite ou pas grand-chose. Parce que des esclaves, dans ce temps-là, là, c'était des pas grand-chose. Combien de fois est-ce qu'on se diminue, ou plutôt, combien de fois nous diminuons ce que nous pouvons faire, l'impact de ce que nous pouvons faire, parce que nous pensons que nous ne sommes pas grand-chose. Ou qu'on pense qu'on n'est pas assez digne. Ça ne me donne rien de le faire, ça ne me donne rien d'en parler. Qui va m'écouter, moi? Je suis pas grand-chose, moi, je suis presque rien. Ça ne me donne rien, je ferai rien. Parce que je me sens pas digne. Puis elle était un esclave, là, même toi. Là. Tu peux te savoir un mot plus indigne que ça, là. Cette jeune fille-là est un esclave. Au niveau social, c'est presque c'était ce qu'il y avait de plus bas. Elle était une étrangère, une juive vivant en Syrie. Elle était jeune. Pourquoi un puissant leader l'écouterait? C'est plate à dire, mais elle était une femme. Je ne veux pas chicaner les femmes, là, mais dans ce temps-là, la culture était dominée par les hommes, puis une femme, c'était vue encore pour moins que rien. Puis si tu étais esclave, là, tu étais encore plus en dessous de la cave. Elle n'avait rien à sa faveur. Elle n'avait absolument rien à sa faveur. Elle n'avait aucune position, aucune influence, mais elle avait une chose. Elle avait la foi. Alors là, ça commence à être excitant. Là. Moi, j'ai assez aimé ce que Pasteur Genestor a partagé ce matin. Moi, ça m'a craqué. C'est un miracle de Dieu qu'on soit ici. Moi, je ne savais pas cette histoire-là. Vraiment, je ne savais pas. Il faut que j'écrive ça dans l'historique de l'Église. Il va falloir qu'on se rende compte, M. Genestor, pour qu'on écrive ça quelque part. Ça a pris quelqu'un qui a souffert pour que l'Évangile de Dieu se répande à Sainte-Julie et Saint-Amand. Moi, je trouve ça fantastique. Quel témoignage incroyable. Se faire dire non, puis dire, moi, je persiste à croire que Dieu veut ça ici. Tu peux imaginer la joie qu'il y a dans votre cœur de voir une église ici à Saint-Julie. Je la comprends peut-être pas au complet, mais quand vous avez dit, c'est un rêve que j'avais d'avoir une église évangélique à Saint-Julie. Wow! Quel témoignage de foi d'impact. Cette jeune fille-là, elle n'avait pas grand-chose, mais elle avait la foi. Comment vous sentez-vous ce matin à l'intérieur de vous? Avez-vous parfois l'impression que vous ne valez pas grand-chose pour les gens autour de vous autres? Que peu importe ce que vous dites ou que peu importe ce que vous faites, personne ne semble le remarquer. Vous sentez-vous comme ça ce matin? Moi, je veux vous dire ce matin que si vous avez la foi dans le Dieu de l'impossible, vous avez tout ce qu'il faut pour faire un gros impact autour de vous et les gens qui vous entourent. Même si vous pensez que vous ne valez pas grand-chose, un petit geste peut faire un gros impact. Oh, mais moi, pasteur, je ne pourrais jamais faire un gros impact. Je ne peux pas faire des grosses affaires. As-tu fait une grosse affaire, là, la jeune fille? Ah, j'ai juste fait une petite proposition, là, sur le bout des lèvres, chacun de même, peut-être. Pourquoi chacun de même? On va le voir plus tard. Elle a agi, deuxièmement, même si elle pensait que sa proposition ne semblait pas être grand-chose. Parce qu'il ne faut pas oublier que Naaman, il était un membre du palais du roi. Son maître était un membre du palais du roi. Il avait accès aux meilleurs docteurs du pays. Il n'y a aucun traitement qui a pu guérir Naaman de sa lèpre parce que c'est une maladie qui était non guérissable, à moins d'un miracle de Dieu. Ne pouvant guérir Naaman ni le soulager de sa douleur, cette jeune fille-là a suggéré à sa femme d'aller voir Élisée pour qu'il soit guéri. C'est la seule affaire qu'elle était capable de faire. Refusant de se laisser décourager par ce qu'elle ne pouvait pas faire, c'est-à-dire guérir Naaman, elle n'était pas capable de guérir Naaman, la jeune fille. Fait qu'elle s'est pas laissée décourager par le fait qu'elle pouvait pas guérir. Elle a courageusement et simplement fait ce qu'elle pouvait faire, c'est-à-dire stimuler la foi en Dieu dans Naaman pour sa guérison. Je sais pas grand-chose, mais s'il pourrait juste aller voir Élisée, je pense que c'est un grand homme de Dieu, il va guérir. Ah, ouais, ouais. Tout d'un coup. Elle a agi. Même si elle pensait que sa proposition ne semblait pas grand-chose. Mais elle a agi aussi, c'est ça qui rend ça extraordinaire, même si le défi était grand. Pourquoi je dis le défi était grand? C'est parce que, tout d'un coup, ça ne marche pas. Tout d'un coup, on sait que ça a marché, c'est pour ça que l'histoire est dans la Bible. Tout d'un coup, ça ne marche pas. Big Boss, le chef, t'envoie ça en Israël, tout d'un coup, qu'il revient, il n'est pas guéri. Moi, l'humilier, il va être humilié parce que tout le monde sait qu'il est parti là pour se faire guérir. Il revient pas guéri. Tu sais, tous les scénarios qu'on s'imagine avant qu'il arrive, là. Oh non, j'en parlerai pas. Non, j'en parlerai pas parce que si j'ai un coup qui marche, qui n'est pas guéri, il va revenir, il va être fâché après moi, il va manger de la misère encore plus que de la misère que j'ai là présentement. Comprenez-vous ce que je suis en train, juste la réflexion que j'amène ce matin? Et là, des fois, on s'arrête parce que tout d'un coup, ça marche pas. Puis, c'est le tout d'un coup que ça marche pas qui nous dicte notre manière d'agir. Au lieu que ce soit tout d'un coup que ça marche qui nous fait agir. Et souvent, on va agir, puis c'est plate, on va agir avec cette pensée. Tout d'un coup, on ose espérer que ça marche, mais c'est le tout d'un coup que ça marche pas qui nous paralyse puis qui nous arrête. Laisse-moi te dire ce matin, puis laisse-moi nous dire ce matin. Faisons ce qu'on a dans le cœur, puis ce qu'on est capable de faire, puis laissons à Dieu de faire le reste. Faisons ce qu'on peut faire, puis laissons à Dieu de faire ce que lui peut faire, puis que nous, on ne peut pas faire. Mais ce qu'on peut faire, faisons-le. Même si ça marche, tout d'un coup, ça ne marche pas, ça fait partie du combat spirituel. Fais ce que tu peux faire. Puis Dieu va faire l'autre partie. Puis Dieu fait toujours la bonne chose en son temps. N'oublions pas qu'il ne force jamais les gens de croire en lui. On continue notre histoire. Vous allez comprendre ce qu'on s'en vient matin. Vous allez comprendre que ça vaut la peine de faire le petit peu qu'on peut faire, parce que ça peut faire une grosse différence. Si on continue à lire notre histoire dans 2 Rois chapitre 5, si on s'en va au verset 4, Naaman va trouver le roi, parce que là, il a le goût d'aller voir Élisée. Écoute, le gars, il est lépreux, il n'y a pas un médecin qui est capable de le guérir. L'autre, il dit, va voir Élisée, il va te guérir. Il n'y avait plus rien à perdre, anyway. Fait que Naaman s'en va voir son boss, le roi, puis il lui raconte tout ce que la jeune Israélite lui a dit. Alors le roi, il dit, parfait, va là-bas, je vais te donner une lettre pour le roi d'Israël. Fait qu'avant d'aller voir Élisée, il fallait qu'il aille voir le roi d'Israël. Donc, il remet la lettre de son roi au roi d'Israël, et voici ce que le roi de Syrie a écrit pour toi, ô roi d'Israël. Avec cette lettre, je t'envoie le chef de mon armée, Naaman, pour que tu le guérisses de sa lèpre. Hey, regardez-moi, arrêtez de lire, là. Mettez-vous dans la peau du premier ministre d'Israël dans le temps-là. Là. Tu veux la lèpre pour que je le guérisse de sa lèpre, pas n'importe quelle maladie. Puis, si on lit le verset 7, on aurait peut-être réagi de même. Quand le roi finit de lire la lettre, il déchire ses vêtements et dit, « Est-ce que je suis Dieu, moi? Est-ce que je peux faire vivre les gens et les faire mourir? Le roi de Syrie m'envoie un homme pour que je le guérisse de sa lèpre. Vous le voyez bien. Il me cherche. Il veut la guerre. Il veut me craquer, là, lui. Là. Il est en train de préparer un plan là, pour nous faire la guerre. Il était tellement habitué à se battre les uns les autres dans ce temps-là. Fait, il était sa grosse défensive. C'est une joke, ça, là. Là. T'sais, c'est quoi le gag, on pourrait dire. Là, t'sais. On continue. Élisée, verset 8. L'homme de Dieu apprend que le roi d'Israël a déchiré ses vêtements. Il lui fait dire, « Tu as déchiré tes vêtements? Pourquoi tu as fait ça? Naaman n'a qu'à venir me voir. Il saura qu'il y a un prophète en Israël. » Naaman arrive avec son char. Au verset 10, Élisée envoie un messager pour lui dire, « Va te laver sept fois dans le fleuve du Jourdain. Tu seras guéri, tu deviendras pur. » Même pas Élisée qui est allé le voir. Il a envoyé un messager, il dit, ah, Élisée te fait dire que va plonger cette fois dans le Jourdain, tu vas être guéri. Imagine-toi l'autre, comment qu'il a reçu ça? Tu sais, quand tu t'imagines, moi je m'imagine les scènes dans ma tête, puis j'y ris tout seul. Naaman, verset 11, se met en colère. Il part en disant, je pensais que le prophète va sûrement sortir de chez lui, il va au moins se présenter devant moi. Puis il va prier le Seigneur, il va m'imposer les mains, puis sur l'endroit de ma maladie, puis je vais être guéri. C'est normal qu'il pense de même, là. Naaman. Lui, il voyait ça dans sa tête, il s'était imaginé un scénario. OK, je vais y aller. Quand même, je suis un chef, il ne me demandera pas de faire n'importe quoi, là, tu sais. Je veux dire, il va me respecter, tu sais. Je suis quand même une personne en autorité. Il va sortir, il va venir me dire bonjour, le Seigneur te bénisse. C'était une maladie, on va prier pour toi, on va m'imposer les mains. Bingo, on m'a guéri. L'autre, il se présente pas, il envoie un messager. Va te laver cette fois dans le Jourdain. Je sais que je suis sale, là, j'ai la lèpre, mais quand même. C'est... J'aime l'humour des fois de Dieu. On continue. Il est toujours en colère, là, Naaman. Puis au verset 12, il dit, écoute, les fleuves là, qu'on a chez nous dans notre bout, là, ils valent sûrement mieux que toute l'eau que vous avez en Israël. Là. J'aurais pu me laver chez nous. Là. J'aurais pu me laver en Syrie pour devenir pur. Là. Fait que Naaman, il n'écoute pas, il s'en retourne, puis il est bien fâché. Mais il avait amené des serviteurs avec lui. Fait que les serviteurs s'approchent de lui et ils disent, « Hey, maître, si le prophète t'aurait demandé une chose tellement difficile, est-ce que tu l'aurais refusé? » Lui, il fait juste te dire de te laver cette fois dans l'eau. Pour devenir peu, comment? Écoute-le. C'est rien que ça. Plonge chaque fois dans l'eau, bingo, fini. Tu vas être guéri. Pourquoi tu n'y vas pas? Hey, il faut le faire, pareil. Hein, dire ça à son chef de l'armée. Il est allé dire ça. Écoute-le, tu n'as rien à perdre. Alors, Naaman descend dans le Jourdain. Tu sais, quand tu peux voir la scène, tu sais, c'était pas un baptême d'eau, là, ce soir-là. Mais il descend dans le Jourdain. Mettons qu'il y a de l'eau partout ici. Là. Il descend dans l'eau. Un. Puis c'est deux. Puis je ne me rendrai pas à sept, là. Écoute, ça devait être spectaculaire à voir. Je ne sais pas. Ça devait être quatre choses à regarder pareil. Hein. Mais il l'a fait pareil. Puis il a plongé cinq, six, sept fois. Et au verset 15, au verset 14, ça dit, il plonge sept fois dans l'eau comme Élisée l'a commandé. Sa peau est de nouveau comme celle d'un petit enfant. Il est devenu pur. Et Naaman retourne chez l'homme de Dieu, avec tous ceux qui sont avec lui. Il se tient devant lui et lui dit, « Maintenant, je sais que sur toute la terre, il n'y a qu'un Dieu. Il n'y a aucun Dieu plutôt sinon celui d'Israël. » Petit geste. Gros impact. Il y a toute une série d'événements qui sont arrivés. Il y a eu un petit, oui, il y a eu le petit geste de la jeune fille. Si Naaman serait retourné chez eux sans plonger cette fois dans le Jourdain, il n'aurait jamais été guéri. Ça n'enlève rien au geste de la jeune fille. Comprenez-vous? Ça n'enlève rien au geste de la jeune fille. Naaman, il est venu à quoi? À ça, là, de ne pas être guéri. Ça a pris ses serviteurs, le courage de ses serviteurs pour leur dire, « Qu'est-ce que tu fais là, maître? » Il dit, « Plonger cette fois, vas-y, tu vas guérir. Come on, man! » Puis là, il est retourné, puis il a été guéri. Mais Naaman, il n'aurait pas été guéri aussi si la jeune fille n'aurait pas fait cette proposition-là non plus. Je ne sais pas si vous comprenez de ce que je suis en train de dire. C'est pas juste la proposition, c'est pas juste le petit geste, mais ça a pris le petit geste pour en arriver. Et il y a des fois, nous aussi, on peut faire le petit geste. Puis des fois, Dieu va demander à la personne à qui on fait le petit geste de peut-être faire un acte de foi, puis cette personne-là ne fera pas l'acte de foi, puis la personne ne sera pas délivrée, ne sera pas guérie. Je ne sais pas si vous comprenez ce que je suis en train de dire. Petit geste par une petite fille de pas grand-chose, puis qui a fait une grosse différence. Puis ce matin, je me suis dit, si la jeune fille, elle serait avec nous autres, quelle sorte de conseil qu'elle pourrait nous donner si on veut faire une grosse différence autour de nous? Alors, elle m'en a laissé quatre à vous donner. Conseil à considérer si tu veux faire ou si nous voulons faire une grosse différence. Premier conseil qu'elle nous laisse ce matin. Si tu veux faire une grosse différence, sois confiant. Et là, c'est comme si c'est elle qui parlerait. Mon maître a fait ce que je lui ai suggéré parce qu'il voyait que je croyais à ce que je lui disais. J'ai pas juste shooté ça en l'air de même. Il voyait que, en anglais, ils disent mean business. Il voyait là que j'étais sérieuse puis que j'avais la foi là que c'est comme s'il a cru que ça arriverait là. Il a tellement cru qu'il s'est imaginé le scénario dans sa tête. Il l'a raconté dans le texte qu'on a lu tantôt. Il s'est tout de suite imaginé. M'en aller vers lui, il va venir vers moi, on va se saluer, il va m'imposer même, on va guérir. C'est comme lui aussi, il avait une genre de foi là, mais il est parti là avec la foi qu'il serait guéri. Alors, si tu veux faire une grosse différence, sois confiant. Vivons nos jours comme si, vivons plutôt notre vie comme si on le croyait vraiment dans ce qu'on croit. Si tu veux faire une grosse différence, sois crédible. Qu'est-ce que ça veut dire, ça? Content que vous me posiez la question. On va y répondre. M'a même laissé la jeune fille répondre. Alors, la jeune fille vous dirait, à votre question, c'est quoi cette crédite? Elle dit, je n'aurais jamais eu le courage de parler si mon travail comme esclave n'aurait pas plu à ma maîtresse. Les gens portent souvent plus d'attention à la manière que nous nous comportons qu'à ce que nous disons. Et je pense qu'il est important de faire ce que nous avons à faire avec le plus d'excellence possible. Même si le travail qu'on nous demande de faire est un travail dégueulasse. Excusez le mot. Même si la position qu'on a dans l'entreprise, c'est le dernier en bas de l'échelle. Fais ce que tu as à faire. Quand ton boss te le demande, fais-le avec le plus d'excellence possible. Parce que tu ne sais jamais un jour. Peut-être qu'il va arriver des situations comme pour la jeune fille. Ou est-ce que tu vas peut-être être la personne qui va faire la différence pour ton patron, pour une autre personne autour de toi? mais parce que tu auras été quelqu'un de confiance, quelqu'un qui aura fait toujours sans chialer, sans maugréer, qui aura fait ce qu'on lui demandait. Quand tu vas parler, les gens vont t'écouter. Même si tu es en bas de l'échelle. Parce qu'ils t'auront toujours vu faire ton travail avec joie, avec excellence, sans chialer. Ou presque pas chialer. Ou si tu chiolais, tu t'excusais parce que tu chiolais. Comprenez-vous la crédibilité? Ton attitude, ton comportement, ta manière de faire les choses feront en sorte que lorsque tu parleras, les gens ouvriront l'oreille pour t'écouter, peu importe ton niveau de classe sociale. Si tu veux faire une grosse différence, réponds aux besoins des gens. Tout le monde a besoin d'espoir, tout le monde a besoin d'aide. Offre-leur l'aide que tu peux. Tout ce que la jeune fille pouvait faire pour Naaman, c'était l'envoyer chez Élisée, le prophète. Et il y a des fois, c'est peut-être tout ce qu'on va être capable de faire pour une personne. On va essayer de l'encourager de venir à l'église. Envoyez-la au pasteur. Envoyez-la à l'église pour rencontrer Dieu puis que Dieu la guérisse. Comprenez-vous? Et on va inviter les gens à venir à l'église, mais il y a des fois, les gens ne feront pas justement l'acte d'obéissance puis ils continueront pas. Ils vont peut-être manquer la bénédiction qui les attendait. Même les gens les plus puissants, les plus riches comme Naaman, ont besoin d'aide. Et si les gens que tu désires aider sont faibles dans la foi, prête-leur la tienne un petit bout. Donne-leur un peu de ta foi. Petite injection de foi, là. Tu sais, il y en a qui donnent du sang. Donnons de la foi. Ce serait peut-être bon qu'on fasse une collecte de foi à un moment donné, qu'on ramasse la foi d'un peu tout le monde, puis qu'on fasse des injections de foi à tous les gens qui viennent dans l'Église parce qu'ils sont malades. Malades physiques, malades spirituels. C'est bon, une belle image. Hein? On retire. Moi, je m'en vais donner de la foi là, aujourd'hui. J'ai juste la foi à donner. Amen. J'ai pas grand-chose, mais j'ai juste la foi à donner. It's enough. C'est suffisant. Si tu veux faire une grosse différence, quatrièmement, n'aie pas peur de faire quelque chose, même si ça semble être petit ou insignifiant. Seulement Dieu sait combien grand peut être l'impact d'un petit geste. Nous, on ne le sait pas. Mais, puis le diable, il sait, puis il ne sait pas non plus, mais il s'arrange pour pas qu'on sache que ça peut être grand. Il s'arrange pour qu'on croie que c'est trop niaiseux quand on ne le fera pas. Des petits gestes, des petites attentions. Grosse différence. Le texte de fin, de conclusion, petit geste, gros impact. C'est dans le psaume 108, verset 14, qui nous dit, « Avec Dieu, nous ferons des... » C'est lui qui écrasera un de nos ennemis. Tous nos adversaires. Tout. Tous nos adversaires. C'est assez clair, ça? On est-tu winner ou on n'est pas winner? Moi, je suis un héros du Seigneur. J'ai peut-être l'air d'un Speedy Gonzalez des fois, mais ça ne me dérange pas. Je gagne pareil. J'ai peut-être l'air d'un Roadrunner pour courir à droite, mais je gagne pareil. Des fois, je suis peut-être même le pied dans le filet, là, tu sais. Mais, hey, même Batman, quand il avait le pied dans le filet, il gagnait tout le temps. Je ne sais pas comment que le filet se cassait, mais il se cassait tout le temps. C'était juste plate quand tu écoutais Batman. Parce qu'il te cassait ça en deux. À tous les fois qu'il arrivait, puis il se faisait prendre par le Joker puis tous ses ennemis. Tu te dis, il va mourir, ils vont l'avoir. C'était écrit, ah, à suivre. Là, il fallait que tu sois là le lendemain, à même heure, même poste. Pour savoir s'il s'en sortirait. Mais on sait qu'il s'en sortirait. C'est ça le pire. On l'écoutait parce qu'on voulait voir comment il ferait pour s'en sortir. Même si c'était arrangé avec le gars des vues, ça venait nous chercher. Ben, comme moi, ça venait me chercher. J'aimais ça. C'était le fun de le voir gagner. Ah, j'aimais assez ça. Puis à la fin, c'était le Joker qui était minable. Ou le pingouin. Des gagnants. C'est ça qu'on est en Jésus-Christ. Des petits gestes, des héros. Ah, moi, je ne serai jamais un héros pour le Seigneur. Pourquoi tu dis ça? Pourquoi tu penses ça? Un seul petit geste. S'il y a une petite fille qui était petite, esclave, qui n'avait rien en sa faveur, a fait un petit geste qui a fait un immense impact dans la vie d'une personne, moi, là, je refuse de croire qu'on ne peut pas être des héros pour le Seigneur. Si petits sommes-nous, si pauvres de petits mois alors que nous sommes, dirait ça, là. On peut être des héros pour le Seigneur. Des petits gestes, gros impact. Petit geste. Niaiseux de petits gestes. Des fois. Parce que c'est ça, des fois. Des petits gestes, on trouve que c'est niaiseux. C'est pour ça qu'on ne les fait pas. Moi, non, je ne parlerai pas de ça au pasteur, il va rire de moi en pleine face. Laisse-les rire. Si tu penses qu'il va rire de toi en pleine face, laisse-les rire. S'il y a quelque chose qui est monté dans ton cœur pour partager, dis-le, fais-le. Pourquoi tu t'arrêterais? Ben, ils voudront pas. C'est pas grave, ça. Fais-le, tu sais pas l'impact que ça peut faire. Tu sais pas l'impact que ça peut faire. C'est juste ça que je veux créer en nous ce matin. Que les héros du Seigneur se lèvent, puis qu'ils fassent des petits gestes. Pas des grosses affaires, des petits gestes. Des petits gestes. Je crois que dans les prochaines semaines, il va y avoir plein de personnes qui vont venir nous visiter. Plein de personnes. Parce que là, on va inviter plein de personnes. C'est Noël, Noël s'en vient. Il y a une effervescence, puis les gens, ils viennent à l'église souvent. Comment est-ce qu'un petit geste peut faire un gros impact? Ça fait combien de fois? C'est quand la dernière fois que vous avez salué quelqu'un dans cette église que vous ne connaissiez pas, que vous ne connaissez pas? Ça fait combien de fois que tu n'as pas sorti de ta gang pour aller voir une autre personne dans un autre? On est habitué de se saluer les mêmes personnes. L'impact de juste aller donner la main à quelqu'un, vous pensez que ce n'est pas grand-chose, ça? Ça a un impact beaucoup plus grand que vous pouvez imaginer ou penser. Vous pouvez juste une poignée de main. Juste une poignée de main. Vous ne savez jamais qu'est-ce que ça peut faire. Si moi, je m'en vais voir JF en arrière, je m'en vais donner la main, je vais dire, hey, je suis assez content que tu sois ici ce matin. Mais pire que ça, je fais un hug en fait ça. Tu penses-tu que lui, il va m'en vouloir le restant de ses jours? Oh, le pasteur est venu me donner un hug un matin, je l'ai yassé. Oh, ça n'a pas d'allure, là, tu sais. C'est un têteux de pasteur, là, tu sais. Tu comprends? Tu penses-tu qu'il va m'haïr parce que je vais lui serrer la main? Mais il s'attend que le pasteur va lui donner la main. Fait que, tu sais, il est content. Mais je sais pas, moi, si un Timothée se lève puis il aperçoit, ah, je te connais pas, je suis content de te voir, je te salue. Si je suis pas Dan ou Alex ou Pierre. C'est pas un jeune, lui, là, Pierre, là, comparé à JF, il pourrait être son père, là, quasiment. Pierre, va lui donner comprenez-vous ce que je suis en train de dire, là, ce matin? Des petits gestes d'attention, d'affection, ça peut faire un impact incroyable dans la vie des gens. Je me souviens d'un témoignage d'un homme qui était assis justement où ce que Serge est en arrière. Puis, je me souviens de le jeune homme, c'est un jeune homme de notre jeunesse qui était rentré dans l'église. Puis là, il avait regardé, puis il avait continué d'avancer, puis il a arrêté, puis il a vu qu'il ne connaissait pas la personne, c'était pas Serge là, qui était là ce soir-là, c'était un autre, mais il a arrêté, puis il a retourné, puis il est allé saluer la personne, est content que tu sois ici avec nous à soir, c'était une réunion du soir. Puis on a eu le témoignage de cette personne-là qui avait été touchée parce qu'il y a quelqu'un qui s'était arrêté, puis il avait viré de bord pour aller dire bonjour. Petit geste. Pas grand-chose, mais c'est ça qui va faire une des plus grosses différences. À moins que je prêche bien, là, c'est pas ça. Là. Ce que les gens veulent, c'est être aimé, puis aimé. Et des fois, quand tu rentres dans une église, tu connais pas les gens, c'est intimidant. Mais s'il y a des chrétiens qui se lèvent et qui ont assez d'amour pour dire, je suis content de souhaiter ça ce matin, bienvenue dans la maison. Je te souhaite une bonne réunion. Demandez-y pas son pédigree, c'est pas ça. Okay. Faites juste le saluer. Hey, je suis content que tu sois là matin. J'apprécie ta présence. Bonne réunion parmi nous. Puis là, il n'y a personne qui va vous tuer à cause de ça. Vous le dites tout de suite. Il n'y a pas un gun qui va se tirer ça. Mais il y a beaucoup d'amour qui va se répandre, par exemple. Il y a des blessures qui vont se guérir. Il y a des gens rejetés qui vont trouver la guérison. Parce qu'il y a quelqu'un qui ose se lever, autre que juste le pasteur et sa femme, pour aller rencontrer et saluer une personne. Il y a des cœurs qui peuvent être guéris, frères et sœurs, à cause de ça. C'est normal qu'on s'attende que le pasteur donne la main aux gens, puis son épouse. Mais c'est comme, on dirait, on ne s'attend pas à ce que les autres le fassent. Puis quand ils le font, c'est wow! Ça a un impact. Je me souviens d'une personne, d'un couple. C'est pas personne parmi vous autres. Il dit, on est allé visiter une église cet été dans nos vacances. Puis quand ils sont allés visiter l'église dans leurs vacances, ils m'ont dit, Guy, t'en reviendras pas. J'ai dit, non, quoi? Puis lui, c'est un pasteur, là. Il dit, personne. P-E-R-S-O-N-N-E. Personne qui sont venus nous donner la main. Personne, puis ils disent, on est arrivé bonne heure avant, puis on est parti. On s'est assuré de ne pas partir tout de suite quand le pasteur, il dit amen à son sermon. Il dit, il n'y a personne qui est venu nous donner la main. Personne. Là, c'est un pasteur, là. Ça aurait pu être un incroyable, quelqu'un qui ne connaît pas le Seigneur. Il était pasteur. Il dit, je ne sais pas s'il est venu me chercher. Ça m'a fait mal. Il a pardonné, là, tu continues, tu t'arrêtes pas pour ça. Là. Mais c'est juste l'impact. Puis j'imagine-toi, quelqu'un qui ne connaît pas le Seigneur, puis il rentre dans une église, puis il n'y a personne qui est dans la personne. Tu peux t'imaginer comment seul que cette personne-là peut se sentir? Petit geste, gros impact. Si vous pouvez juste noter ça. Écoute, tu vas dire, pasteur, mais ça serait fou si tout le monde commence à s'élever et donner à mettre. Hey, écoute, il n'y a pas personne qui va mourir de ça. Là. S'il faut qu'on se commence à s'élever et à se donner, puis je change. Oh, je pars de mon banc, là, je m'en vais donner à mettre quelqu'un. Écoute, tu peux-tu croire que ça va avoir un impact? Moi, je suis convaincu à 100 000 à l'heure que ça va avoir un impact. On va apprendre à se connaître, à se découvrir les uns. Hey, hein, c'est la première fois que je te vois. Ça fait 6 mois que je te dis. Puis on est rien que 100 personnes, là. Tu peux comprendre une église de 2000 personnes que tu sais, ça fait 6 mois que tu es là et tu t'es pas vu, mais 100 personnes, tu sais, je pense qu'on devrait, c'est le moins des choses qu'on soit capable de serrer la pince entre nous autres avec 100 personnes. Tu sais, peut-être pas la même dimanche, mais à quelque part, là, tu sais. J'oserais même pas poser la question, t'as-tu déjà donné la main à telle personne et tout, je veux pas, c'est pas ça là, que je suis en train de dire, je suis pas en train de mettre une condamnation, je veux juste éveiller en vous l'impact que ça peut faire d'un petit geste. Puis des fois, une poignée de main peut faire une immense différence pour les gens. Une immense différence. Une tape dans l'épaule. Ah ben, good job à la base un matin. Good job. Bien fait ça. Merci les gens qui étaient à l'accueil ce matin pour votre sourire quand vous avez accueilli. Là, tu vas aller voir en plein les monitrices. Tu te tapes dans l'épaule, puis hey, merci d'avoir garder les bébés un matin. Puis merci d'avoir enseigné à nos enfants l'école du dimanche. On l'a beaucoup apprécié. Tu comprends-tu? C'est le fun quand c'est le pasteur qui le fait. C'est cool. C'est bon. Mais quand c'est un frère, une sœur d'un Seigneur, ça doit. Il y a une pompette qui doit se faire, là, qui dit wow, hey, c'est bon, il n'y a pas juste le pasteur qui l'a remarqué. Je veux juste exciter. Hein. La Bible a dit, veillez les uns sur les autres pour vous exciter à l'amour et aux bonnes œuvres. Puis c'est un peu ce que je partage, que je suis en train de vous dire là. Je laisse mon cœur parler. Puis c'est comme, je veux juste qu'on veille les uns sur les autres, puis qu'on s'excite à l'amour un petit peu, puis aux petits gestes. Parce que les petits gestes vont faire une grosse différence. Big difference. Big, 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 big. Yeah. Grosse différence. On rit, mais des fois, c'est pas drôle non plus. C'est ça que je veux, une église VIP, là, c'est une église qui aime les gens. Puis c'est une église qui n'a pas peur d'aller voir un autre et dire bonjour à quelqu'un. Ben, j'aime pas en faire ce pasteur. Prépare-toi, tu n'as pour l'éternité à le voir avec toi. C'est quand même mieux de commencer à y aller tout de suite, à l'aimer. T'es pas obligé de dire, tu sais, les affinités, c'est pas, on est, oui, il y a des fois, avec des personnes, on est peut-être moins à l'aise qu'avec d'autres, c'est normal, les caractères, pis ça, je comprends ça, je suis pas une conversation que je parle, c'est juste un accueil, que Dieu te bénisse, je suis content que tu sois là le matin, puis tu t'en retournes, c'est fini. C'est un petit geste, c'est pas grand-chose. T'as rien dit, oh, bonjour, puis bonne réunion, que Dieu te bénisse, that's it. Mais, un impact incroyable que ça peut faire. Comment c'est ça? Essayez ça. Comment c'est ça? Moi, j'ai commencé ça. J'ai toujours été un gars bien social aussi. Ça va dans mon caractère. Là, vous allez dire, ouais, mais moi, pasteur, je ne suis pas comme toi. Je ne suis pas social, moi. Ah, j'attendais que quelqu'un dise. La plus belle femme de cette église. Lynn. Elle n'était pas sociale, elle non plus. Elle n'était pas pantoute. S'il y avait quelqu'un de gêné, de timide, puis que j'y aurais dit, faudrait que tu salues les gens, c'était quelqu'un, c'était un géant. Si on va le dire comme ça, c'est un géant pour elle. Elle n'était pas capable, elle, dans une gang, de toute façon, elle était un reject toute sa vie à l'école. Parce qu'elle était trop gênée, trop timide. Elle a toujours été mise dans un coin. Il n'y a personne qui allait vers elle parce qu'elle était timide au plus haut point. Et souvent, des fois, quand tu es timide, tu n'es pas capable d'aller vers les gens. Puis quand les gens vont vers toi, ben t'es fiches, t'es gels. C'est souvent ça qui arrive à ces gens-là qui sont timides puis super gênés. Mais elle s'est dit, j'ai pas le choix, là. Faut j'affronte mon géant. Je suis femme de pasteur. Les gens ont besoin que je leur donne un hug. Les femmes ont besoin, les jeunes filles ont besoin de me voir, les saluer, leur donner un petit hug, puis content que tu sois là le matin. Les grands-mamans, ils ont besoin de voir leur petite Lynn, là, tu sais, les saluer, puis leur dire, ça te bénisse. Puis moi, les grands-papas aussi aiment ça. C'est une note humoristique, là, OK, là. On se comprend. Comprenez-vous? Elle a dit... Mais ce que je veux dire, c'est qu'elle n'était pas sociale. Du tout. Pantoute. C'est sûr que vous l'avez connue, elle donnait la main déjà à tout le monde. Tu dis, ça se peut pas qu'elle t'en main, avant. Ça se peut, certain. Elle était vraiment comme ça. Ça veut dire aussi, ça se peut qu'on peut changer. C'est de l'espoir, ça. C'est de l'espoir. Oui, ça peut être difficile, mais tu peux dire, Seigneur, sans j'aurais le goût d'élargir mon cercle d'influence, d'élargir mon territoire. Là, tu commences à essayer ça. Commence à donner. Moi, quand j'ai commencé ça, je capote. J'ai commencé à être pasteur, puis j'étais habitué, moi, avant une réunion, quand tu es pasteur, tu t'enfermes dans le bureau, puis tu pries. Puis tu sors à 10 heures. Salut tout le monde. Seigneur vous bénisse. Puis là, tu fais tes annonces, tu souhaites la bienvenue à tout le monde. On se reverra la semaine prochaine, là. Dieu vous bénisse. Il s'en retourne dans son bureau. Puis là, il part parce que là, la porte est à ses côtés. Puis t'as presque pas personne à parler au pasteur ou pas. J'ai vu ça trop souvent. Ça m'a manqué énormément. Les pasteurs, j'avais de la misère à atteindre. Non rejoignables. J'ai pas le goût d'être comme ça. Fait que quand je suis devenu pasteur, j'avais le choix. Avant les réunions, je m'enfermais dans mon bureau. Puis je sors à 10 heures, quand tout le monde est arrivé. Puis je fais mes annonces, Dieu vous bénisse. Puis après ça, je sors par l'autre porte. J'avais le choix de faire ça. Puis j'ai choisi plutôt, je vais prier chez nous. Je vais prier dans la semaine. Je vais me préparer spirituellement. Puis quand je vais arriver dimanche matin, je vais être prête. Mon sermon va être prêt. Tout ce qui me reste à faire, c'est accueillir les gens. Wow! Je suis préparé spirituellement. J'ai prié le Seigneur. Je suis prête. Puis quand j'arrive à l'église, j'ai juste hâte que le monde arrive. Puis boy, que le monde arrive. proche de 10 heures. Arrivez-tu de bonne heure, j'ai hâte de vous voir. Comprenez-vous ce que je suis en train de dire? Puis j'ai commencé comme ça. Ça fait 9 ans et demi que je suis pasteur. Puis à chaque dimanche après dimanche, j'accueille des gens, je salue des gens. J'aime faire ça parce que je sais que ça a un impact dans la vie des gens. Les gens, ils aiment ça quand on leur donne la main. Ouais, mais pasteur, t'es pas spirituel, t'es bien mieux de te préparer. Je suis préparé. C'est déjà fait, cette boîte-là. Mais les gens ont besoin aussi d'un peu d'amour aussi. La semaine a été dure, les boss ont été durs. S'il faut que le pasteur soit dur, ça va mal à la chambre. Ou si le pasteur, il est pas... Tu comprends-tu? Ça, on a besoin, là, tu sais. L'église, il faut que ça soit un lieu de recueillement, de ressourcement, frères et sœurs. Faut pas que ça soit un lieu d'écœurement. Faut que ce soit un lieu de ressourcement, de rafraîchissement. Quand on se rend compte, parce que la Bible dit, il est bon pour des frères et des sœurs de demeurer ensemble, car c'est là que Dieu envoie la vie et la bénédiction pour toujours. Quelqu'un dit amen.
Enseigne-moi.com.
Enseigne-moi.com, le site numéro 1 d'enseignement chrétien.
Le site numéro 1 d'enseignement chrétien.
Enseigne-moi.com.
Parce que son peuple périt, faute de connaissances.
Enseigne-moi.
Toute la parole de Dieu, sans compromis.
Toute la parole de Dieu sans compromis.